France Inter.
Et c'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une ce matin, le MeToo du cinéma français alourdi par la charge de 10 actrices contre le réalisateur Philippe Liorel, l'accuse de gestes déplacés au moment des castings, de baisers forcés. Enquête France Inter et témoignage dans un instant. Des négociations obligatoires sur l'emploi des seniors en entreprise. Seul point d'accord pour l'instant entre syndicats et patronat, il se revoit ce matin pour tenter d'aboutir sur les conditions de travail des salariés en fin de carrière. Dans ce journal aussi, pour circuler pendant les Jeux Olympiques à Paris, il faudra demander son QR code à partir du 10 mai. Un appel au cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, tribune signée Emmanuel Macron avec le président égyptien et le roi de Jordanie. Le marché de la voiture électrique et donc des batteries qui décrochent littéralement. Et puis un documentaire passionnant sur la DGSE ce soir sur France 2.
La cause écologiste est-elle plus attaquée que jamais? Question à 8h20 dans le grand entretien de la matinale avec la secrétaire nationale du parti, les écologistes. Marine Tondelier dans ce studio, posez-lui vos questions, vos réactions 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Jusqu'où un réalisateur peut-il aller lors d'un casting, moment décisif pour les comédiens? Ici, nous parlerons de comédiennes, elles sont donc 10. Elles ont raconté les mêmes scènes qui mettent en cause le réalisateur Philippe Liorel, auteur des films Welcome, Mademoiselle ou encore Je vais bien, ne t'en fais pas. Il tenait le haut de l'affiche du cinéma français dans les années 2000-2010. Bonjour Géraldine Allo.
Bonjour.
C'est vous qui avez enquêté avec Élodie Guéguin de la cellule investigation de Radio France et recueilli les témoignages de ces actrices. Elles parlent à visage découvert pour que cessent les abus au moment des castings.
Oui, nous sommes à l'été 2010. Philippe Liorel rencontre une cinquantaine d'actrices pour le casting de son prochain long métrage, Toutes nos envies, adapté d'un roman d'Emmanuel Carrère. Parmi elles, 10 dénoncent un comportement déplacé de la part du réalisateur. C'est le cas d'Élodie Frink, l'un des rôles principaux de la série télé Les Petits Meurtres d'Agatha Christie.
J'apprends mon texte, j'y vais et là, il décide qu'il me donnera la réplique, lui. Et il s'avère que c'était une scène d'attirance mutuelle. Et il a commencé à être très insistant, il mettait sa bouche dans mon cou, je me dégageais. Et puis il me disait, mais tu veux le faire ou tu veux pas le faire? Et puis c'était de plus en plus désagréable et on le fait une fois et on le fait deux fois. Et il veut toucher plus et que ce soit plus vrai et plus vrai et plus vrai. Et tout d'un coup, j'ai décidé que ça suffisait. Je suis partie.
D'autres comédiennes disent avoir vécu la même expérience lors du casting, comme Amandine Dewham. Elle a été choisie par Philippe Liorel pour incarner l'un des personnages principaux de Toutes nos envies.
À partir du moment où il m'a pris dans ses bras, où j'ai senti ses mains et ses doigts dans mon cou, sur mes hanches, son souffle dans mon cou, je crois me souvenir, mon corps s'est pétrifié. Je me rappelle m'être dit, mais je fais quoi avec ça? C'est quelqu'un qui, en effet, peut embaucher des comédiennes. Et du coup, bah, y a pas de limite. Ça déborde de partout, quoi. Il peut tout faire.
Alors, nous avons pu visionner des images de ces essais et elles corroborent tout à fait les témoignages des comédiennes. Toujours lors de ce casting, Philippe Liorel aurait exigé de voir les seins des actrices alors qu'il n'y a aucune scène de nu dans le scénario. C'est ce que nous rapportent 5 témoins.
Géraldine, certaines de ces actrices accusent aussi Philippe Liorel de les avoir embrassées sans leur consentement.
Oui, elles sont 3 à dénoncer des baisers forcés, dont l'une dans les années 90. Philippe Liorel entame alors le casting de son 2e film. Il rencontre une comédienne expérimentée que nous appellerons Nathalie. C'est un prénom d'emprunt et nous avons modifié sa voix. Le réalisateur lui a proposé le rôle principal lors d'un déjeuner, nous raconte-t-elle.
Donc le déjeuner s'est bien passé, on a parlé du rôle. Au moment de partir, donc on était sur le trottoir et de manière assez brutale, il m'a attrapé par les épaules et m'a embrassé, goulûment. Vraiment un vrai baiser. Et donc moi je suis resté assez pétrifié, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, d'où il a le droit de m'embrasser sans que j'ai donné mon consentement, de me traiter comme ça de manière brutale. Je considère que c'est une agression sexuelle.
Par la voix de son avocate, Philippe Liorel fait savoir qu'il s'excuse si son comportement a pu heurter, mais qu'il n'a jamais, je cite, forcé quelqu'un à faire quelque chose de déplacé, ni embrasser une femme de force.
Son avocate qu'on entendra dans le journal de 9h. Merci Géraldine Allo. Rendez-vous samedi à 13h20 dans Secret d'Info pour écouter votre enquête en longueur co-signée avec Élodie Guéguin, à lire dès maintenant sur franceinter.fr avec de nombreux autres témoignages et notamment une lettre de Marie Gillin qui avait obtenu le rôle principal du film en question.
Ils devront travailler jusqu'à 64 ans. Les salariés seniors auront-ils droit à des contreparties en entreprise?
C'est tout l'enjeu de la négociation qui se termine entre syndicats et patronat. Ils n'ont pas conclu hier soir. Les discussions vont donc continuer ce matin, ralenties par le MEDEF, accuse les syndicats. Yvan Ricordeau négocie pour la CFDT.
Ils sont venus en égo à reculons. Donc quand on négocie à reculons, si on veut aller au bout de la négociation, en marche arrière, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à l'objectif, quoi. Donc il y a un moment, il fallait qu'ils pivotent. Le petit bout de pivotement qu'on a vécu a eu lieu à 22h30, quand ils nous ont dit « on ouvre la porte à ce qu'il y ait une négociation obligatoire sur la question de l'emploi des seniors dans toutes les entreprises à partir de 300 salariés ». Donc pour la première fois, on a sur un point une ouverture qui dit « il faut qu'on discute sérieusement de cette affaire-là ». Au bout de 14 heures de négociation, c'est le seul gain qu'on ait eu. C'est aussi simple que ça. Sinon, sur reconversion, on n'a rien. Sur l'usure professionnelle, on a fait une demi-douzaine de propositions, on n'en a aucune. Après, pour la première fois, le MEDEF dit on crante quelque chose qui est un petit signal pour dire qu'on a envie d'aller au bout. Il est grand temps.
Voilà, Yvan Ricordeau de la CFDT au micro de Maxime Debs. Chez les fonctionnaires aussi, s'attendre à du changement. Un projet de réforme est attendu à l'automne pour accentuer la rémunération au mérite et faciliter les mutations d'une branche à l'autre. Chantier lancé aujourd'hui en mode concertation au ministère de la fonction publique.
À pied, à vélo, en voiture, comment circuler à Paris pendant les Jeux Olympiques?
Il faudra montrer patte blanche et QR code pour franchir les vastes périmètres fermés avant la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, puis pendant toute la durée des compétitions. Et pour ce faire, s'inscrire sur une plateforme en ligne à partir du 10 mai. Avis aux dizaines de milliers de personnes concernées, signé Gérald Darmanin ce matin dans Le Parisien. Les livreurs en font partie, qui devront approvisionner la capitale pendant les Jeux, commerce, hôtels, hôpitaux. Pour les aider, voici une autre plateforme, sorte de Waze des JO, baptisée J'Optimise, en ligne à la fin du mois. Victor Vasseur.
Cette application va plus loin que Google Maps et Waze, car en plus de l'état du trafic, elle prend en compte les épreuves, elle anticipe les futures difficultés et localise en direct les aires de livraison disponibles. David Zenouda est le vice-président de l'UMI en Ile-de-France. Il a participé à l'élaboration de la plateforme.
Avec toutes ces contraintes de circulation, c'est essentiel de savoir exactement à quel moment nous arriverons sur site et puis de savoir en temps réel, si vous devez aller du côté du Trocadéro, vous savez qu'il faut générer un QR code, vous savez qu'il y a un délai pour arriver sur cette esplanade parce qu'il peut y avoir soit la remise des médailles, soit une épreuve. Du coup, peut-être que vous devriez livrer plutôt à un autre client.
À la manière de Google Maps, l'application indiquera le meilleur itinéraire. Une trentaine d'entreprises testent la plateforme depuis plusieurs semaines. Tous les commerces de Paris sont localisés. Car l'approvisionnement pendant les JO est l'un des enjeux majeurs dans l'organisation de la compétition, explique Jean-André Lasserre. Il chapeaute la plateforme J'Optimise.
C'est le nerf de la guerre. Il va bien falloir manger, il va bien falloir amener des produits très importants dans les hôpitaux. Il y a aussi tout ce qui est la réparation, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne quelque part, les ascenseurs, enfin, il y a tous ces gens-là qui vont intervenir. Hein.
Cette application gratuite sera aussi très utile pendant les Jeux paralympiques début septembre. Moins de visiteurs sont attendus dans la capitale, mais la vie parisienne va reprendre après les vacances.
Victor Vasseur, finalement la tempête Pierrick est passée un peu plus au nord que prévu. Le vent n'a pas décorné les bœufs dans le Finistère, mais le risque de submersion demeure sur le littoral avec les grandes marées jusque dans le Pas-de-Calais, soit 7 départements en vigilance orange auxquels s'ajoutent les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Charente-Maritime, l'Eure, la Seine-Maritime. Pour des risques de crue, cette nuit, la Seine a envahi les quais de Rouen. Et puis un 10e mois consécutif de chaleur record dans le monde, mars 2024, où la température des océans a elle aussi battu un nouveau record selon l'Institut Copernicus. Alors qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme rendra 3 décisions très attendues en matière de justice climatique, saisie par des citoyens contre les États, accusés de ne pas faire assez contre le réchauffement climatique.
8h09 sur Inter. Négocier une trêve tout en préparant l'attaque de Rafah.
Israël en guerre avec le Hamas à Gaza a programmé la date de son offensive, dit Benjamin Netanyahou. Pourtant, un projet d'accord pour un cessez-le-feu de 6 semaines est sur la table des négociations au Caire. Et 3 pays remettent la pression ce matin. France, Égypte, Jordanie. Dans une tribune co-signée par Emmanuel Macron, le président président égyptien et le roi de Jordanie pour un cessez-le-feu immédiat et permanent face aux souffrances catastrophiques dans la bande de Gaza, je cite, et pour la libération de tous les otages. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Tous les appels de ce type sont restés vains jusqu'à présent. À quoi peut bien servir celui-ci?
Écoutez Florence, c'est un peu la diplomatie du désespoir, faute de pouvoir faire appliquer la résolution 2728 adoptée il y a 10 jours au Conseil de sécurité. Eh bien, les trois présidents en sont réduits à publier une tribune dans la presse internationale, signe d'une forme d'impuissance et de frustration, à l'instar du texte de l'ONU resté lettre morte et qui réclamait un cessez-le-feu humanitaire, prélude à un cessez-le-feu durable. Eh bien, la France, la Jordanie, l'Égypte lancent un appel pour mettre fin à la guerre à Gaza, aux souffrances catastrophiques des civils palestiniens. Pour l'Élysée, l'idée de la tribune est de montrer à l'opinion publique que la France ne relâche pas ses efforts diplomatiques avec ses partenaires arabes. Les trois pays mettent en garde contre une offensive israélienne à Rafah dans le sud de la bande de Gaza où plus d'1,5 million de Palestiniens ont trouvé refuge. Une telle opération, selon eux, ne pourrait qu'accroître les pertes humaines, aggraver le risque de déplacement forcé des Gazaouis et entraîner une menace d'escalade dans la région.
Christian Cheneau, et puis la France n'a plus intérêt à discuter avec les responsables russes. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné en forme d'impasse après le dernier coup de fil entre Paris et Moscou la semaine dernière. Dans son compte rendu, la Russie avait sous-entendu que les services secrets français auraient pu être impliqués dans l'attentat du 22 mars à Moscou. Quand un marché ultra prometteur se retourne de façon spectaculaire au mois de février, il s'est vendu plus de diesel que de voitures électriques en Europe. C'est un véritable coup de frein qui fait aussi dévisser le prix des batteries au plus haut niveau. Il y a 2 ans, avec la flambée des cours du lithium, du cobalt et du manganèse, aujourd'hui Agnès Soubiran, la chute est impressionnante.
En quelques mois, effectivement, le cobalt et le lithium ont perdu près de 80% de leur valeur, résultat d'une demande en berne et d'une offre en hausse. Partout dans le monde, les ventes ralentissent, particulièrement dans les pays comme en Allemagne, où les subventions à l'achat de véhicules électriques ont été supprimées. L'offre, elle, reste importante. La Chine, qui avait notamment fait des réserves de lithium après la pandémie pour sécuriser ses approvisionnements, se retrouve avec un excédent, ce qui entraîne une chute des cours, d'autant que certains industriels retardent leurs achats en espérant des prix encore plus bas ultérieurement. Résultat, le prix de la batterie, qui représente entre 40 et 60% du prix d'une voiture électrique, a baissé de 14% en 2023 et devrait encore baisser de 13% cette année. Reste à savoir ce que feront les constructeurs, répercuter cette réduction pour relancer les ventes ou augmenter leurs marges mises à mal par l'inflation. Les experts tablent plutôt sur une baisse des prix dans l'espoir de relancer un marché à tonnes et d'arriver peut-être en 2025 à des prix véhicules thermiques, véhicules électriques identiques. Équation impensable il y a encore quelques mois.
Agnès Soubiran, toujours aussi convoitée en revanche, le cuivre régulièrement volé dans les câbles, notamment en zone rurale, 8 fois plus de vols ces 3 dernières années selon Orange. Et là où les voleurs passent, l'internet et le téléphone trépassent, comme dans cette commune des Hauts-de-France, près de Compiègne. Reportage François Ventéjou.
À la mairie de Saint-Yne, le fixe connecté à la DSL est hors service. Pour le remplacer, un téléphone portable.
Mairie de Saint-Yne, bonjour.
Patricia Luc est la secrétaire de mairie. Elle travaille avec depuis fin janvier, date du dernier vol de câbles dans le secteur.
C'est pas pratique puisqu'effectivement on est 2 déjà avec des lignes téléphoniques, donc on est obligé de se passer le téléphone.
Et donc de monter à l'étage plusieurs fois par jour pour voir sa collègue Virginie Tréfort, la secrétaire générale. Elle n'a plus de ligne directe et utilise donc son téléphone personnel pour travailler.
Je ne peux pas répondre, mairie de Saint-Yne, bonjour. Sinon j'ai des amis qui vont se demander ce qui se passe. Alors des fois je ne réponds pas, moi je réponds, mais vous voulez bien la mairie de Saint-Yne? Oui, c'est ça.
Une situation forcément épuisante sur le long terme, et si rien n'a été réparé 2 mois et demi après, c'est que l'opérateur n'arrive pas à faire face au nombre de vol. Cyril Luneau est le directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange.
Les techniciens que l'on doit dépêcher sur place interviennent dans beaucoup de sites. Donc ça, c'est une vraie problématique de désorganisation. De plus, sur la zone, par exemple, des Hauts-de-France, on a eu des inondations importantes avec des dégradations sur le réseau. Et nos techniciens, pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose.
La région Hauts-de-France, qui est en plus la plus touchée par le vol de câbles en cuivre.
François Ventéjou, les grands espaces Espagne contre l'aristocratie du foot anglais, Real Madrid-Manchester City, 21h ce soir, la grande affiche des premiers quarts de finale de la Ligue des Champions. L'autre match opposera Arsenal au Bayern Munich.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde des espions sans oser le demander.
DGSE, la fabrique des agents secrets à découvrir ce soir sur France 2 en prime time. C'est un documentaire exceptionnel. La Direction Générale de la Sécurité Extérieure a donc accepté de lever le voile, enfin en partie seulement, sur ses activités et ses méthodes, Alexandra Hakoun.
De la formation qui comprend par exemple des techniques pour échapper à la surveillance d'espions rivaux, au recrutement sur le terrain d'un informateur.
Énormément de sources trahissent leur pays ou aident un service étranger parce qu'elles ont besoin d'argent à un moment donné, elles ont besoin de reconnaissance.
En passant par l'art d'opérer sous couverture, vous saurez tout sur la DGSE.
Une maison qui est composée de gens ordinaires pour faire des missions extraordinaires et avec des moyens exceptionnels.
Pendant plusieurs semaines, l'historien Jean-Christophe Notin, spécialiste du renseignement, et le réalisateur Théo Ivanez ont pu s'entretenir avec une incroyable variété de témoins, des hommes et des femmes qui, sous couvert d'anonymat, visage flouté, racontent le quotidien de leur travail. Agents clandestins, analystes d'armes chimiques, interprètes d'images, dégommant au passage quelques clichés.
La plupart des officiers traitants de la DGSE sont sous couverture diplomatique en ambassade. C'est pas James Bond. On n'a pas un Walter PPK dans la poche. Non. Éventuellement, le vodka martini, c'est possible, mais...
Contre-terrorisme, lutte contre la prolifération des armes sont pourtant des réalités illustrées ici par des cas concrets. Bien sûr, on ne nous dit pas tout. La communication, on le sent, est ultra maîtrisée. D'ailleurs, pas de révélation fracassante sur ces 90 minutes d'entretien entrecoupées d'images fournies par l'institution elle-même. La plongée dans cet univers d'habitude si secret n'en est pas moins fascinante.
Voilà, DGSE, la fabrique des agents secrets, c'est à 21h10 sur France 2 ce soir. Autant dire qu'on n'est pas couché, Simon.
Ah bah non, hein, on ne va pas louper ça, nous, ouais, les adeptes du bureau des légendes.
Exactement.
Merci Florence Paracuellos. La philosophe Joëlle Zask fait dans son dernier livre l'éloge de l'admiration, un sentiment qui nous fait grandir, dit-elle. Elle sera au micro de Mathilde Serrel tout à l'heure dans un peu plus d'une heure à 9h20.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Ça souffle encore près de la Manche, Marie-Pierre Planchon.
Et oui, Simon, à cause de la tempête Pyrrhique, donc qui sévit sur le sud des îles britanniques, qui engendre encore des vents localement forts jusqu'à 110 km/h du Finistère au Pas-de-Calais, associé donc aux pleines mers à fort coefficient. On a 7 départements placés en vigilance orange, vague, submersion, plus la vigilance crue pour la Charente-Maritime jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Et puis on retrouve les pluies de la perturbation d'hier sur toute la façade est, de la Lorraine à l'Alsace, en descendant jusqu'à la Côte d'Azur, mais pas la Corse ce matin. Puis dans l'ouest, le temps est instable avec des averses, des bourrasques, alors que sur les régions centrales, du nord des Ardennes, au Val-de-Loire, à la Camargue, au Golfe du Lion, le ciel est plus lumineux et il fait frais ce matin, pas plus de 3 en Lozère, 4 en Charente-Maritime, à Passirac, 9 à Paris, alors que vous avez encore 17 à Grenoble.
Et cet après-midi, le temps sera un peu moins agité.
Oui, le vent va souffler un petit peu moins fort près de la Manche et de l'Atlantique, et la poussée anticyclonique va commencer à avoir des effets avec un peu plus d'éclaircies, un peu plus nombreuses, donc sur les trois quarts du pays. Mais les pluies seront encore d'actualité des Alpes à la Corse, avec des averses de neige à 1100 mètres sur le Jura, les Alpes. Ailleurs, ce sera un régime averses. Du Val-de-Loire à la Gironde au Massif central, un orage pourrait éclater. Et après le passage de Pyrrhic, donc on a de l'air froid qui va s'engouffrer et ce sera la dégringolade des températures. On va perdre au minimum 10 degrés. Vous n'aurez pas plus de 9 à Rodez, 11 à Saint-Étienne comme à Rouen, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 à Nantes, Dijon comme à Bayonne. Il fera 17 à Nice et 22 à Olmeto en se rappelant, j'allais dire Nicolas, Simon,
en
se rappelant
pas
la sagesse amérindienne. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.
Tiens, ben ça va bien avec notre invité écologiste Marine Tondelier avec nous dans 5 minutes, juste après Géopolitique.